l'heure de faire le point sur l'information avec vous, Claire Flochel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les résultats définitifs du bac, c'est normalement pour ce soir, 24 heures de retard après cette édition 2019 chaotique et cette grève des correcteurs, grève inédite, et des relations entre ministres de l'éducation et syndicats qui se sont littéralement détériorées. Les vacances à peine commencées, la rentrée s'annonce déjà très compliquée. Hakim Kasmi.
Réforme du bac, menace de retenue de salaire et de sanctions pour les enseignants grévistes, les griefs contre Jean-Michel Blanquer ne manquent pas pour les syndicats. Des syndicats qui ont très mal pris les propos du ministre de l'Éducation et du chef de l'État pendant leur mouvement de grève. Du coup, le dialogue semble quasi impossible tant que Jean-Michel Blanquer ne fera pas de gestes sur les réformes en cours. Jean-Rémy Girard, le secrétaire général du SNALC, promet donc une rentrée très très compliquée.
Le malaise, il est très profond dans la profession enseignante. C'est pas quelque chose de conjoncturel, c'est quelque chose de structurel et qui est aggravé par des réformes qui sont mal concertées, qui se mettent en place de façon souvent aberrante et avec en plus une communication ministérielle que nous on qualifie de méprisante.
Quant au SNES qui doit rencontrer le ministre mercredi prochain, il appelle déjà à la grève et ses adhérents à ne pas être professeurs principaux à la rentrée. Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES.
La réforme du lycée est tellement mal conçue, mal faite et faite surtout pour sélectionner les élèves que de toute façon les professeurs ne peuvent pas donner des conseils avisés à leurs élèves. Donc il y a déjà des académies comme celle de Rennes où il y a eu un mouvement massif de collègues qui ont dit qu'ils refuseraient d'être professeurs principaux à la rentrée.
Quant aux résultats définitifs du bac, ils doivent être publiés ce soir, mais les collectifs d'enseignants appellent déjà Jean-Michel Blanquer à laisser passer à la session de septembre tous les candidats qui n'auraient pas leur bac aujourd'hui pour plus d'équité.
Hakim Kasmi. Mise en cause dans une affaire de logement social, la directrice de cabinet de François de Rugy démissionne. Elle aurait conservé un appartement à Paris alors qu'elle n'a pas travaillé dans la capitale entre 2006 et 2018. Une démission après des révélations de Mediapart et à la demande du ministre de la Transition écologique. Lui-même est empêtré dans une affaire depuis le début de la semaine, celle de dîner fastueux financé par l'Assemblée nationale du temps où il en était le président. La bataille de Paris sera menée par l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, désigné tête de liste LREM. Il promet une campagne digne, sans propos de caniveau. Fin de citation. C'était il y a un an, quasi jour pour jour, le 10 juillet 2018, Édouard Philippe donnait le coup d'envoi de la réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Un an après, eh bien, rien n'est toujours lancé. Anne Fauquemberg, aujourd'hui, cette ambition présidentielle se heurte à un accord avec le Sénat.
C'est la réduction du nombre de parlementaires qui pose problème. Selon la majorité, un accord à 25% a été trouvé avec le Sénat, mais il manquerait toujours des élus pour faire voter le projet de loi organique, l'un des trois textes de la réforme. Édouard Philippe préfère donc attendre. Il l'a dit le 12 juin dernier, à l'occasion de son discours de politique générale.
Nous ne mobiliserons pas du temps parlementaire pour in fine constater le désaccord du Sénat. Nous attendrons le moment propice et la manifestation de volonté du Sénat, qui peut-être ne viendra qu'après le renouvellement de la Haute Chambre en 2020.
Pour autant, la majorité n'est pas démobilisée. Le député Sacha Houlier, référent pour cette réforme, fait œuvre de pédagogie.
On doit pouvoir expliquer pourquoi c'est une bonne chose pour tout le monde. Pourquoi en 86, il y avait 491 députés, ça marchait très bien. Pourquoi, lorsqu'il y a moins de parlementaires, la Chambre est plus forte? C'est vrai du Sénat américain au Sénat romain.
En cas de désaccord définitif avec le Sénat sur les trois textes qui composent cette réforme constitutionnelle, seul le projet de loi ordinaire qui consiste à introduire une dose de proportionnelle pour élire les députés serait faisable. Mais il ne faut pas traîner, explique Sacha Houlier.
Au plus tard, après les municipales de mars 2020, puisqu'il nous faudra bien prendre un texte et puis ensuite procéder, y compris si nous ne faisons que la proportionnelle, au redécoupage nécessaire. Donc, au plus tard, entre mars et juin 2020.
Un redécoupage qui devrait être achevé au moins un an avant les prochaines législatives de 2022.
Reportage signé Anne Fauquemberg. Le texte doit être adopté définitivement aujourd'hui, faisant de la France une pionnière en la matière. Paris veut une taxe sur les GAFA, les géants du net. Taxe jugée injuste par Washington. Donald Trump ouvre une enquête sur les effets de cette mesure. À New York, Loïc Loury.
Une menace à peine voilée contre la France, voilà ce que signifie le lancement d'une telle enquête ordonnée par Donald Trump. Dans un communiqué, son représentant au commerce dénonce cette taxe dite GAFA. Nous allons, dit-il, en examiner les effets et déterminer si elle constitue un poids ou une restriction au commerce des États-Unis. La taxe française sur les géants du numérique ne concerne certes pas uniquement des entreprises américaines, mais elle viserait Google, Amazon, Facebook ou Apple, des sociétés numériques qui réalisent de gros chiffres d'affaires sur le sol français mais ne paye que peu d'impôts. Mesure injuste, dénonce donc Washington et les poids lourds de la Silicon Valley. Justice fiscale, leur répond Paris. La suite, après une enquête d'un an tout au plus, ce sont donc de possibles représailles. Donald Trump, en effet, a utilisé le même outil pour attaquer la Chine dans le cadre de la guerre commerciale toujours en cours entre les deux géants. Un bras de fer qui risque de tendre encore les négociations actuelles entre les États-Unis et l'Union européenne.
Précision à New York, signée Loïc Loury. Une opération exceptionnelle aujourd'hui au Vatican. Deux tombes d'un cimetière vont être fouillées dans le cadre d'une enquête vieille de 36 ans. La disparition d'Emanuela Orlandi, la fille d'un employé du Vatican, Mathilde Imberti.
Les hypothèses les plus sombres ont été formulées sur la disparition d'Emanuela Orlandi. Est-ce la main de la criminalité organisée romaine, du terrorisme international? L'église complice cache-t-elle la vérité? Ce 22 juin 1983, l'adolescente de 16 ans termine son cours de musique à Rome. Elle n'a que le Tibre à traverser pour rejoindre le Vatican où son père est employé et où elle vit en famille. Elle s'évanouit dans la nature. 36 ans plus tard, dans l'enceinte de ce Vatican, deux tombes d'un cimetière allemand vont être fouillées car un mystérieux message envoyé à l'avocat de la famille indique cet endroit précis. Pietro Orlandi, le frère d'Emanuela, parle d'un positif après des années de non-collaboration.
6 mois après la disparition d'Emanuela, Jean-Paul II est venu chez nous. Il nous a dit « c'est un cas de terrorisme international ». Je dis que si eux savaient déjà la vérité, cette phrase a constitué la première fausse piste de cette histoire. Jean-Paul II a mis en balance la vérité et l'image de l'Église. Il a fait un choix et a permis au silence, à l'omerta, de régner sur cette affaire.
Dans les prochaines heures, l'expert en charge des analyses espère pouvoir déjà dater grossièrement les ossements retrouvés dans les deux tombes.
Reportage signé Mathilde Imberti, correspondante de France Culture à Rome. On termine par la météo, du soleil bien présent sur la moitié sud de la France. Sur le nord, en revanche, les nuages seront nombreux. Les températures sont comprises ce matin entre 14 et 24 degrés. Les éditions ce matin ont été préparées avec Amaury Baucher et François-Charles Domergue.